Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers amis auditeurs, méditons ensemble sur les versets 47, 48 et 49 de la Sainte Sourate Younes.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة رسول فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
À chaque communauté, un messager. Puis, quand vient leur messager, tout se décide entre eux à la balance. On ne leur manquera cependant pas. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridique? Dis, je ne suis maître pour moi, ni de mal ni de bien, que celui que Dieu veut. À chaque communauté, un terme.
Quand leur terme arrive, ils ne peuvent alors ni retarder d'une heure, ni avancer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran, on rend ce mardi 22 mars 2022. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. La nation iranienne a choisi la résistance, l'indépendance et la force intérieure, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Un embargo européen sur le pétrole russe frapperait tout le monde, avertit le Kremlin. 4 soldats maliens et au moins de 22 terroristes tués dans 2 attaques. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Nous discutons de l'économie le premier jour de l'année en raison de son importance. Car si elle est vraiment accompagnée par la justice, le pays connaîtra un vrai progrès. Aussi, on a eu de certains défis économiques au cours des 10 dernières années, lesquels doivent être surmontés, a souligné le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, dans son discours à la nation au premier jour du nouvel an auprès iranien. Les nouvelles politiques du pays ont montré que notre économie ne devrait pas être liée aux sanctions américaines. Malgré les sanctions, le gouvernement a su accroître le commerce extérieur, signer de nouveaux contrats régionaux et améliorer les questions liées au pétrole, a-t-il souligné. Bien sûr, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas chercher à éliminer les sanctions, mais on doit gérer le pays de sorte que ces sanctions ne puissent pas porter un coup grave. Elles causeraient certains préjudices, mais ne doivent pas être autorisées à causer un préjudice considérable, a-t-il souligné encore. Nous allons revenir en détail sur ce discours dans notre commentaire politique. Le Kremlin a déclaré qu'un potentiel embargo européen sur le pétrole russe frapperait tout le monde au moment où l'Union européenne doit étudier lors d'une réunion la possibilité de nouvelles sanctions contre Moscou. Un tel embargo aurait une influence très sérieuse sur le marché mondial du pétrole, une influence néfaste sur le marché énergétique en Europe, mais les Américains n'y perdront rien. C'est évident, ils se sentiront bien mieux que les Européens, affirmait Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe. C'est une décision qui frapperait tout le monde, a-t-il poursuivi lors d'un point de presse. L'Union l'Union européenne a déjà adopté plusieurs trains de sanctions contre Moscou depuis l'intervention russe en Ukraine, ciblant massivement des entreprises, des banques, des hauts responsables et des oligarques, interdisant l'exportation de biens vers la Russie. Les importations européennes de gaz ou de pétrole russe ont jusqu'ici été épargnées en raison de leur coût pour les Européens très dépendants des hydrocarbures russes. L'Allemagne, notamment, a été critiquée pour son opposition à un embargo immédiat sur les hydrocarbures russes dont elle dépend fortement. Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré lundi que son pays reste sur sa position selon laquelle il ne peut pas se passer des importations de pétrole russe. Selon l'agence Reuters, il a tenu ses propos alors que se tiennent des discussions au sein de l'Union européenne sur l'imposition de nouvelles sanctions à Moscou pour son opération militaire en Ukraine. Des diplomates ont déclaré à Reuters que les États baltes, dont la Lituanie, font pression pour adopter de telles mesures restrictives, tandis que l'Allemagne met en garde contre des mesures imprudentes, car les prix de l'énergie en Europe sont déjà élevés. Berlin s'oppose à un embargo immédiat sur les hydrocarbures russes dans le but d'assécher les flux financiers vers Moscou suite à l'opération des Russes en Ukraine. Pour l'Allemagne, un tel boycott déstabiliserait l'économie et la société allemande car il provoquerait une flambée du coût de l'énergie ainsi que des risques de pénurie. Pourtant, le gouvernement allemand a entamé des démarches pour diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne. Le 20 mars, il a annoncé la conclusion d'un accord énergétique de long terme avec le Qatar pour importer du gaz naturel liquéfié lors d'une visite de son ministre de l'économie dans ce pays. 4 soldats maliens et au moins 22 terroristes ont été tués dans 2 attaques dans le centre et le nord du Mali, indiqué lundi la direction de l'information et des relations publiques des armées dans un communiqué. Une embuscade tendue contre une patrouille en offensive ce lundi à Boni Douanza, dans le centre du Mali, a coûté la vie à 2 éléments des forces armées maliennes qui ont également enregistré 7 blessés. Après une riposte vigoureuse de l'armée, de 13 assaillants ont été tués et 2 interpellés. Quant à l'attaque du poste de Tessit dans le nord du pays, elle a fait 2 morts et 10 blessés dans les rangs de l'armée malienne. Les forces armées maliennes ont repoussé vigoureusement l'attaque. 9 morts ont été dénombrés sur place et plusieurs blessés terroristes ont été interceptés et anéantis par une intervention aérienne au cours de leur fuite, selon le communiqué. Le 14 mars dernier, 23 soldats et au moins 70 terroristes ont été tués dans une attaque terroriste contre le poste de sécurité des forces armées maliennes de Mondoro dans le centre du pays. Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme au niveau sécuritaire, politique et économique. Les insurrections indépendantistes, les incursions terroristes et les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés dans le pays. Des activistes africains appellent à mieux protéger les forêts pour éviter les catastrophes climatiques. La préservation des vastes forêts tropicales d'Afrique sera cruciale pour protéger les communautés locales contre toutes sortes de catastrophes climatiques dévastatrices comme les sécheresses, les inondations et les vagues de chaleur, ont déclaré lundi des activistes au cours d'un événement organisé pour la Journée internationale des forêts. Nous devons sensibiliser les déjà un rôle crucial des forêts dans la lutte contre le changement climatique. Leur protection garantira une transition juste et inclusive vers un avenir plus vert, indiqué de M. Maunda dans un communiqué publié à Nairobi, la capitale kenyane. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La nation iranienne a choisi la résistance, l'indépendance et la force intérieure, a souligné des guides suprêmes de la révolution islamique, ce dont nous allons vous parler dans notre commentaire politique. Nous discutons de l'économie le premier jour de l'année en raison de son importance, car si elle est vraiment accompagnée par la justice, le pays connaîtra un vrai progrès. Aussi, on a eu certains défis économiques au cours des dernières années, lesquels doivent être surmontés, a souligné le guide suprême de la révolution islamique dans son discours au premier jour du nouvel an iranien, à l'adresse de la nation iranienne. Les nouvelles politiques du pays ont montré que notre économie ne devrait pas être liée aux sanctions américaines. Malgré les sanctions, le gouvernement a su accroître le commerce extérieur, signer de nouveaux contrats régionaux et améliorer les questions liées au pétrole, a-t-il souligné encore. Bien sûr, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas chercher à éliminer les sanctions, mais on doit gérer le pays de sorte qu'elle ne puisse pas porter un coup grave. Elle causerait certains préjudices, mais ne doivent pas être autorisées à causer d'un préjudice considérable, a-t-il souligné encore. Plus loin dans son discours, le guide suprême de la révolution islamique a souligné que, regardez le cas de l'Afghanistan, la manière dont les États-Unis s'en sont retirés. Ils y sont restés pendant 20 ans, perpétrant tant d'oppression dans ce pays opprimé et musulman, pour enfin le quitter, ainsi créant des problèmes pour le peuple, bloquant les biens du peuple afghan. Regardez le cas du Yémen, où ce peuple innocent est vraiment résilient et bombardé chaque jour. Regardez ce que fait l'Arabie Saoudite, qui décapite de 80 jeunes et adolescents en un de seuls jours. Quelle oppression, quelle ténèbres et quel loup sanguinaire règne dans le monde. Dans les événements survenus en Ukraine, tout le monde a remarqué le racisme des gouvernements occidentaux. Ils arrêtent les trains pour séparer et faire descendre les passagers noirs qui essaient de chercher un refuge et d'échapper aux problèmes de la guerre, a-t-il souligné. Dans les médias occidentaux, ils déplorent ouvertement que cette fois la guerre ne soit pas au Moyen-Orient mais en Europe. C'est-à-dire les guerres, effusions de sang et fratricides au Moyen-Orient ne causent aucun problème, mais en Europe, si. Du racisme si manifeste et si flagrant. Et l'oppression fait rage dans des pays soumis aux occidentaux, mais ils n'en parlent point, a souligné le guide suprême de la révolution islamique. Et aujourd'hui est l'une des périodes les plus infâmes et les plus dénoncées de l'histoire contemporaine en termes d'oppression et de transgression que les puissances arrogantes sont malheureusement en train de commettre. Et les peuples du monde en sont directement témoins, a-t-il souligné encore.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Au 25e jour de l'action militaire russe en Ukraine, la Russie a annoncé avoir utilisé pour le deuxième jour consécutif des missiles hypersoniques en Ukraine, et cette fois pour détruire une importante réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud du pays. Selon le ministère russe de la Défense, une importante réserve de carburant, la principale source d'approvisionnement du carburant des blindés ukrainiens, a été détruite par des missiles de croisière calibre tirés depuis la mer Caspienne, ainsi que par des missiles balistiques hypersoniques tirés par le système aéronautique Kinjal depuis l'espace aérien de la Crimée. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons analyser les principaux enjeux de ce virage technologique, à savoir l'usage des missiles balistiques hypersoniques par la Russie en Ukraine, son impact sur l'intensité du conflit, le message de cette initiative russe à l'adresse de l'OTAN et des pays occidentaux, et bien entendu, ses répercussions sur l'avenir du conflit en Ukraine. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Dans la nuit du 19 au 20 mars, alors même que la résistance yéménite lançait l'une de ses méga-opérations combinées, dont elle est la seule au monde à en avoir le secret, avec un nombre infini de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques, opération si choquante que les images en ont été pour la première fois depuis le début de la guerre de 2015, publiées par Riyad lui-même, qui, sans le soupçonner, a reconnu de la sorte que la vraie puissance pétrolière en mer Rouge, ce n'est plus lui, mais bien la partie qui décide quand le pétrole coule dans les vannes d'Aramco. Quand il ne coule pas, la Russie de Poutine prenait le monde entier, elle aussi, de court, en lançant pour la première fois in situ un super missile hypersonique de type Kizal sur un entrepôt d'armes souterrain en Ukraine occidentale. Les milieux militaires occidentaux ici sont les premiers à se demander le pourquoi de ce geste. The Drive, pour ne parler que de cette revue militaire organe du Pentagone, se met à inventer des raisons, évidemment toutes largement réductrices concernant la Russie. L'une de ces raisons serait le manque de missiles Iskander-M qui a été largement utilisé en 25 jours de conflit qui commencerait à manquer. Tandis que l'autre pourrait être la crainte de la Russie d'envoyer ses chasseurs bombarder les centres de commandement des opérations pour cause d'une DCA performante, dit la revue, allant même jusqu'à se moquer de la cible en soi, un entrepôt d'armes pour la destruction de laquelle la Russie n'avait réellement besoin d'un vecteur potentiel nucléaire. Et pourtant, à regarder de façon objective et de plus près ce choix, il est parfaitement fondé. Cette nuit, les sources syriennes ont fait état de l'arrivée en masse dans les déserts de l'est de la Syrie de terroristes de Daesh libérés par les FDS, des grands prions-camps d'entraînement à Saké, là où ils sont embarqués à destination de l'Ukraine. Eh bien, c'est une alerte précoce de la Russie à la fois contre les États-Unis, mais aussi contre ses deux alliés les plus pratiques en Ukraine, la Turquie et Israël. Après tout, les MiG-31 se trouvent en nombre à Hmeim, en Syrie, à peine à quelques kilomètres de la base otanienne, Isirklik, en Turquie. Et Isirklik n'est pas une cible minime, au contraire d'Ivano-Frankivsk en Ukraine occidentale. Et puis, Ivano-Frankivsk, est-ce réellement une cible minime qui ne valait pas un Kinzhal ? N'en déplaise à The Drive, la réponse est non. Cette cible se trouve à 2 heures de Lviv, ville où la méga-base israélienne bourrée de mercenaires otaniens a été ciblée par la Russie il y a de cela quelques jours. Là, c'était un premier avertissement anti-Israël, le ciblage à coups de Kizal, d'Ivano-Frankivsk, et le second.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Moscou avec Fabrice Béard, expert pour l'ONG EOD. Monsieur Béard, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à mon ami et camarade Luc Michel.
Monsieur Béard, au cours des derniers jours, alors la Russie a annoncé à deux reprises avoir utilisé des missiles de balistiques hypersoniques pour détruire un entrepôt souterrain d'armement, mais aussi une réserve de carburant de l'armée ukrainienne. L'usage de ce type d'armement semble être une première. Alors, comment expliquer ce virage technologique, si on peut utiliser ce terme, parce qu'en principe, les missiles hypersoniques, en effet, s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie de dissuasion. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le contexte géopolitique actuel qui exige pour la Russie l'usage de ce type d'armement ?
Qui exige, non, mais qui est utilisé pour faire une démonstration de force, oui, puisque depuis le début, nous sommes dans une guerre de propagande. En réalité, l'armée ukrainienne a déjà perdu la guerre, on le sait très bien, elle est aujourd'hui désorganisée, il n'y a plus de commandement intégré. L'armée russe avance comme selon le plan établi, lorsque certains disent qu'elle s'enlise, mais elle s'enlise, on ne va pas envahir un pays en trois jours. Ça c'est dans Call of Duty, c'est dans les jeux, c'est pas dans la réalité, surtout qu'il y a une attention particulière faite par rapport aux civils. Et donc ça va plus lentement qu'on ne pourrait, que certains voudraient le croire, et transformer justement cette guerre très délicate et ciblée que mène la Russie en enlisement. Mais ils n'ont aujourd'hui que comme arme de propagande, en particulier donc la junte de Kiev, que de produire des fakes et aujourd'hui de rigoler, comme vous l'avez indiqué dans le sujet d'introduction, de se moquer des armes russes. Mais on se moquait de la déclaration de Poutine. En 2007, je rappellerai, c'était à Munich, il avait fait une première mise en garde après la main tendue qu'il avait fait dans les années 2000 à l'Europe pour construire un partenariat, une maison commune européenne pour la sécurité et la prospérité commune. Il n'a pas été entendu. En 2007, il a indiqué que les activités de l'OTAN étaient effectivement un problème et qu'il fallait discuter sérieusement. Et lorsqu'il y a eu des armes, il avait indiqué « Vous ne nous écoutiez pas jusqu'à présent, maintenant écoutez-nous ». Il n'a pas été écouté lorsqu'il a essayé et donner même la chance à Macron, qui voulait relancer les discussions dans le format Normandie pour l'application des accords de Minsk. Mais ce n'était que de la parole, puisque, même les diplomates français ne connaissaient pas les accords de Minsk, ce qui est assez grave, les Anglais aussi. Et surtout qu'il n'y avait aucune volonté d'appliquer ces accords de Minsk, qui n'ont jamais été appliqués, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est l'ambassade des États-Unis à Kiev à l'époque, puisqu'aujourd'hui ils sont à Avlov, qui décidait, et non pas le président, et dans le cas précis, le président Zelensky. Donc ces missiles aujourd'hui employés, déjà les calibres sont employés, donc ces missiles de croisière, et aujourd'hui il y a ces missiles hypersoniques que certains en Occident disaient que ce n'était que de l'esbrouf et de la propagande russe. Ils existent, c'est la preuve. Ce vecteur, le dernier qui est Kinjal, qui veut dire poignard en russe, peut effectivement être un vecteur de la bombe nucléaire. Dans le cas précis, bien évidemment, il est même fort à parier que c'est simplement la force cinétique, c'est-à-dire de la vitesse qui a détruit et non pas la charge qu'il pouvait transporter ou pas. C'est une démonstration de force et une démonstration qu'effectivement la Russie a les armes qu'elle a bien indiquées et qu'elle n'hésitera pas à les utiliser. Et en particulier, la première utilisation qui a été filmée en plus par un drone, donc on est totalement à l'ouest de l'Ukraine, donc imaginez qu'il y a aussi un drone russe qui est passé à travers la défense antiaérienne ukrainienne qui soi-disant est hyper performante, a abouti, on a vu, c'est vraiment une arme de précision, c'est vraiment tombé précisément là où il fallait que ça tombe, au mètre près. Donc c'est une démonstration de force de la Russie qui démontre qu'elle a les moyens et qu'en plus elle n'hésitera pas à les utiliser puisqu'elle les utilise. Donc oui, pour répondre à votre question, nous sommes dans un tournant militaire qui démontre que la Russie a non seulement sur le papier les capacités, mais en pratique qu'elle les a véritablement, qu'elle sait les utiliser et qu'il est impossible de ce missile qui va à plus de Mach 10, de les intercepter. C'est un message envoyé aux Américains, puisque avec ce genre de missile, les flottes américaines de par le monde peuvent être touchées. Donc l'avantage essentiel de l'armée américaine, qui est le nombre et en particulier sa flotte, avec ce missile démontre aujourd'hui que ce n'est plus un avantage, puisqu'il suffit que de quelques missiles pour détruire toutes ces flottes américaines, qui est l'essentiel de la force de projection de l'armée américaine dans le monde. Donc oui, nous sommes à un tournant géomilitaire, géostratégique assez important avec l'emploi de ces deux missiles en Ukraine.
Merci infiniment pour ces précisions, Monsieur Bauer. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous, bonjour à mon ami Fabrice. Vous savez que nous avons fondé il y a bientôt 17 ans ensemble l'ONG IOD que je dirige à Bruxelles et que lui dirige en Russie. Donc nous sommes des partenaires étroits. Moi, malheureusement, je ne partage pas l'avis. Stratégiquement, l'utilisation de missiles hypersoniques ne change rien à la guerre en Ukraine. Il n'y a surtout pas les explications, les galéjades de l'OTAN sur l'épuisement de l'armée russe. Et il n'y a pas du tout de lien avec le Proche-Orient, la Turquie ou Israël. C'est lié en fait au jusqu'au boutiste de l'OTAN en Europe, aux Polonais, aux Roumains et aux Baltes. Ceux-ci, en essai, sont en train de tenter de monter ce qu'ils appellent une mission de la paix qui interviendrait en Ukraine de l'OTAN. Donc, une mission de la paix armée, ce qui serait, contrairement à ce qui s'est passé jusque maintenant, une intervention militaire directe de l'OTAN, cette mission de la paix ayant vocation de se défendre contre les Russes. Les Américains, dès dimanche, d'ailleurs, ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Et l'utilisation des missiles hypersoniques, évidemment, c'est une ligne rouge qui est tracée vis-à-vis de ces jusqu'au boutistes de l'OTAN. C'est leur dire, nous pouvons vous frapper où vous voulez, vous n'êtes pas capable de vous opposer à nous, en particulier avec les systèmes de antimissiles patriotes que vous êtes en train de déployer, notamment en Bulgarie. Et secondement, la Russie, comme Poutine l'a déjà exprimé, elle rappelle que les missiles hypersoniques, ce sont des missiles duals, c'est-à-dire qu'ils peuvent être équipés de têtes nucléaires et que c'est une possibilité que la Russie se réserve en cas d'intervention de l'OTAN. C'est donc lié à ces projets de ces fous de guerre qui sont en Pologne et dans les Pays-Baltes et qui sont en pointe dans la russophobie.
Merci pour ces éclairages. Monsieur Michel, restez avec nous. Monsieur Bauer, vous avez parlé d'un tournant militaro-stratégique alors dans le conflit en Ukraine. Monsieur Michel, lui, il évoque cette ligne rouge. Alors la question qui se pose avec justement l'usage de ces armes invincibles, de ces missiles hypersoniques, alors la question qui se pose, quel sera son impact sur l'intensité du conflit et sur le cours, sur l'issue en effet de ce conflit, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique?
On dit exactement la même chose dans le cas précis, Luc Michel et moi-même. Simplement, on ne le voit pas du même angle. Je parle que du cadre européen, puisque je suis tout à fait d'accord que ça n'a pas de relation directe avec ce qui se passe au Proche-Orient à l'heure actuelle, même si évidemment il y a des rebondissements et que ça doit être compris et ça doit être... Il y a les conflits possibles, ou tout du moins les rapports de force ailleurs, où la présence russe pourrait s'exercer. Mais dans le cas précis, dans le cas européen, le dossier ukrainien, c'est évident que c'est une ligne rouge qui est indiquée en précisant, en démontrant par les faits, par la preuve, par l'action, que la Russie a les moyens et qu'elle n'hésite pas à les employer. Maintenant, sur le terrain en lui-même, le conflit, ce n'est pas ces armes-là qui vont changer le cours de la guerre, puisque la guerre, comme je vous l'ai déjà indiqué, si guerre il y a, elle est déjà gagnée par la Russie. Ce n'est pas parce que les soi-disant experts occidentaux à droite et à gauche qu'on voit dans les médias, qui hier étaient experts en... C'est des toutologues qui hier étaient experts en virus, aujourd'hui ils sont experts en stratégie militaire, et puis demain en géopolitique, et après-demain dans le métamask, dans le métaverse de la crypto, voilà, que c'est vérité. Non, ces gens aujourd'hui arrivent à croire à leur propre propagande, ils s'auto-intoxiquent. La réalité sur le terrain, c'est que l'armée avance comme il est prévu. Elle va bientôt libérer Mariupol, c'est une question de jours. Elle va bientôt encercler, espérons-le, donc dans le Donbass, là où se trouve essentiellement 40%, plus de 40% de la force de l'armée ukrainienne. Donc tout se déroule, on va dire, positivement vis-à-vis pour les démarches de l'opération spéciale russe en Ukraine. Ça ne changera pas la chute de la junte de Kiev. C'est simplement, comme il a été indiqué justement par Luc Michel, c'est un message envoyé aux jusqu'aux boutistes, aux extrémistes de l'OTAN, c'est presque un pléonasme, comme quoi que s'ils veulent jouer à ce petit jeu, ils ne pourront pas s'y opposer, puisque ces missiles ne peuvent pas s'y opposer. Dans la vidéo que l'on voit qui circule, filmée par quelqu'un qui est juste à côté, au-delà du discours ordurier que cette personne fait lorsqu'il filme, on voit également qu'ils ont tiré un missile antimissile, sauf que il n'a pas pu l'intercepter. On ne peut pas intercepter ce missile à plus de Mach 10. Il n'y a pas d'un missile antimissile à cette vitesse. Donc c'est une démonstration que s'ils veulent jouer, ils peuvent être aussi ciblés. Vous avez rappelé dans votre reportage également que la première base de mercenaires qui était entre Vlof et la frontière polonaise, spécialement fait pour cela, pour que ça soit au plus proche de la frontière, ils pensaient qu'ils allaient être protégés. Ils n'ont pas été protégés. Des missiles calibre, à peu près, on pense entre 3 ou 7, se sont abattus et ont donc effacé quelques centaines de mercenaires. C'était la première ligne rouge qui avait été indiquée. La deuxième ligne rouge, c'est celle-ci, où là, on est monté d'un cran dans le type d'arme qui est envoyé et qui leur précise effectivement qu'ils peuvent viser qui ils veulent et sans aucune possibilité de riposte. Je pense que ça va en refroidir plus qu'un, puisque aujourd'hui, la Russie, dans ce domaine-là, ne peut pas être concurrencée. Elle n'a pas, pour la première fois, effectivement, elle a une avance technologique, et c'est cette avance technologique qui lui permet de pouvoir effectivement faire ce rapport de force avec l'OTAN. Ce pourquoi, certainement, dans d'autres éléments que nous n'avons pas entre nos mains, la Russie est intervenue en Ukraine, puisque le moment était aussi opportun face à cette confrontation avec l'OTAN qui devait arriver un jour ou un autre. Donc la Russie, elle décidait très certainement de le faire dans les meilleures circonstances présentes qu'elle pouvait avoir, et elle utilise aujourd'hui évidemment son arsenal pour démontrer que l'OTAN doit s'occuper de ses affaires dans le cas précis qu'il ne doit pas intervenir en Ukraine. Tout du moins qu'ils ne doivent pas rêver de pouvoir intervenir militairement directement en Ukraine, puisque la Russie n'hésitera pas, comme pour les mercenaires, à viser ce qu'il faut. Et ce n'est pas la propagande de Kiev qui invente des bombardements qu'ils font eux-mêmes, mettent sur des avions des fois qui sont détruits alors que ce sont les leurs. Il suffit de voir les photos et les vidéos, c'est assez plausible, comme sur Mariupol où on dit voilà, Mariupol est une ville détruite, les Russes bombardent, alors qu'on a plein de vidéos, on voit des militaires russes, on voit que dans la ville ils se font bombarder, mais pas par eux-mêmes évidemment, par le bataillon Azov des nazis Azov qui acculé aujourd'hui tire sur la ville qu'il est soi-disant là pour protéger. Donc aujourd'hui la guerre est déjà gagnée, c'est juste une question de temps, quand est-ce que tous les objectifs seront atteints. Ils seront atteints, c'est juste quand qui est la question que personne ne peut répondre à l'heure d'aujourd'hui. Et ces missiles ne sont en fait à destination que pour l'OTAN, puisque sur le terrain, en lui-même, ça ne changera absolument pas. Ils n'ont pas besoin de déployer ces armes en eux-mêmes, on va dire, pour changer le cours de la guerre. Je rappellerai pour terminer que le matériel militaire essentiellement qu'emploie la Russie, c'est un matériel de deuxième niveau, le matériel de premier rang, autant dans les tanks, autant dans certaines armes de l'armée de terre comme l'armée de l'air, restent jusqu'à présent, pour le premier niveau, ne sont pas encore employées. Là, ces armes-là ont été employées, effectivement, comme il a été indiqué par Luc Michel, pour un message vis-à-vis de l'OTAN, mais sur le terrain, l'armée russe n'a pas besoin de ça pour continuer à gagner, remporter des batailles et libérer des pays, en particulier le Donbass, des villes dans le Donbass, et réduire, démilitariser l'armée ukrainienne, qui est son objectif principal.
Merci encore, Monsieur Bor. Une toute dernière question à Monsieur Michel. Monsieur Michel, donc avec cette démonstration de force de la Russie, avec cette avance technologique qui fait basculer, comme disait Monsieur Bor, les rapports de force entre la Russie et l'Ukraine, à quoi il faudrait s'attendre, non seulement sur le terrain, mais aussi et surtout de la part des pays occidentaux et à leur tête les États-Unis.
Écoutez, c'est un avertissement qui n'est pas seulement fait aux extrémistes de l'OTAN, mais aussi aux États-Unis. Vous savez que les missiles hypersoniques, c'est une invention américaine. Dans le livre de Dexter Drepiard, du plus grand géopoliticien vivant actuellement, John Friedman aux États-Unis, c'est l'ancien patron de Stratford, il y a des dizaines de pages sur la future guerre de l'espace. En 2018, Friedman a sorti un grand article où il annonçait que les missiles hypersoniques étaient en train de renouveler la stratégie navale mondiale. Les Russes les ont pris de vitesse, ils ont mis au point leurs propres missiles hypersoniques et ils ont neutralisé la stratégie américaine. Ce que les Américains doivent comprendre, c'est que leur volonté d'avoir un avantage stratégique déterminant avec la nouvelle stratégie navale, la guerre de l'espace, n'oubliez pas qu'en 2018, Trump a lancé une arme de l'espace aux États-Unis, à côté de la marine, de l'aviation et de l'armée de terre, eh bien, tout cela n'existe plus. La Russie rivalise avec les États-Unis. Et dans le cadre de la redistribution de la géopolitique mondiale, c'est-à-dire la constitution d'un bloc de l'Est militaire avec la Chine et l'Iran, la Russie démontre que ce bloc est aussi capable de puissance que le bloc américain. La grande, bien entendu, théorie américaine, elle a encore été exprimée ce matin dans le journal Le Point, c'est que les Américains sont tentés de renouveler l'expérience de Reagan, c'est-à-dire d'épuiser économiquement et militairement la Russie, comme ils avaient épuisé économiquement et militairement l'Union soviétique dans les années 1980. La Russie vient de démontrer qu'il n'y aurait pas une course stérile aux armements classiques, mais qu'avec les missiles hypersoniques, la Russie était capable de rivaliser avec les Américains. C'est cela qu'il faut retenir de cette affaire, indépendamment de ses implications en Ukraine même, qui sont de calmer les extrémistes de l'OTAN.
Monsieur Michel, avec ce changement des rapports de force, est-ce que l'OTAN va réviser sa stratégie vis-à-vis de la Russie?
Écoutez, l'OTAN est dans une impasse et c'est la raison pour laquelle certains extrémistes essaient par tous les moyens de faire une intervention directe qui serait suicidaire, parce que Joe Biden, qui n'est pas un pacifiste, c'est l'homme qui a appelé en 1999 à bombarder Belgrade et ses ponts, ce qui a été fait. Biden a très bien compris que la Troisième Guerre mondiale pointait son nez. Il a décidé de ne pas s'engager là-dedans, ce qui serait suicidaire par les États-Unis. Dès lors, l'OTAN, bien entendu, elle est dans une impasse complète. Elle a voulu engager une démonstration de force et je pense qu'elle l'a déjà perdue aujourd'hui. Le maître des horloges, c'est Vladimir Poutine et toute la propagande et les rondomontades de l'OTAN sur les plateaux de télévision, en particulier en France, ça révèle simplement un profond malaise. L'OTAN sait qu'il a perdu la guerre, et en disant que la Russie est en train de perdre en Ukraine, elle révèle simplement son impuissance à agir. Comme je l'ai dit, en Ukraine, l'OTAN se battra jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien. Zelensky, c'est un criminel vis-à-vis de son peuple. Il est en train de soulever des bataillons territoriaux, des milices qui vont conduire au massacre. Je rappellerai quand même que dans les 8 derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, Hitler a fait la même propagande. Il a levé les bataillons territoriaux, le fameux Volkssturm. Dans les 8 derniers mois de la guerre, il y a eu plus de morts allemandes que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. C'est à cela que l'Ukraine court, sous les encouragements des États-Unis et de l'OTAN.
Merci.
Tous ces gens sont des criminels, tous ces gens vont conduire les Ukrainiens au massacre, mais c'est, je pense, leur but, c'est de créer un fossé entre le peuple ukrainien et son peuple frère, le peuple russe.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, Fabrice Poir, expert pour l'ONG HOT depuis Moscou, je vous remercie infiniment d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, à bientôt.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le ministre iranien du pétrole, Javad Oji, a indiqué la détermination de son ministère à augmenter les exportations de pétrole et a déclaré que malgré les sanctions imposées, les tentatives de l'ennemi de réduire nos exportations à zéro, les exportations de pétrole brut de l'Iran ont augmenté depuis le début du 13e gouvernement. Dans une interview à la télévision iranienne à l'occasion de la journée de la nationalisation de l'industrie pétrolière iranienne le 20 mars 1951, le ministre iranien du pétrole a déclaré « L'exportation de pétrole brut iranien a augmenté grâce aux efforts des employés du ministère du pétrole et du reste des institutions concernées et même des forces armées après une planification et des études approfondies et l'utilisation de toutes les capacités disponibles. Le ministre du Pétrole a expliqué que notre capacité de production journalière de pétrole brut et de condensat de gaz dans les années à venir ne sera pas de 4 millions de barils. Selon le plan, ce chiffre atteindra 5 700 000 barils par jour. Une partie de cette énergie sera dépensée dans le secteur du raffinage et une autre partie sera consacrée au maintien du marché d'exportation iranien. Notre capacité de production de gaz naturel est actuellement d'environ 1 milliard de mètres cubes et notre capacité de production actuelle de pétrole brut est d'environ 3 millions et 800 000 barils à 3 millions et 900 000 barils par jour et tout cela est fait par des spécialistes iraniens qualifiés et les entreprises locales. Oji a indiqué que son ministère est à la recherche de nouveaux acheteurs pour son pétrole et à cet égard, il utilise toutes ses capacités internes et externes et a diversifié ses contrats. Il a ajouté que les recettes monétaires provenant des ventes et des exportations de pétrole brut, de condensat de gaz, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques ont augmenté d'environ 2,5 fois par rapport à 2021. Nous avons également constaté une augmentation des exportations nettes de gaz naturel par rapport à l'an dernier, a-t-il ajouté. Il a expliqué qu'en termes de volume, nous avons assisté à une augmentation des exportations de pétrole par rapport à l'année dernière, soulignant que la hausse des prix internationaux a contribué à augmenter nos revenus pétroliers. Javad Oji a ajouté qu'à l'heure actuelle, la capacité de production de l'industrie pétrochimique iranienne est d'environ 90 millions de tonnes, dont 68 complexes pétrochimiques qui atteindront 140 millions de tonnes au cours des 4 prochaines années, dont la plupart proviendront d'industries complémentaires à l'industrie pétrochimique. La coalition d'agression dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a accusé, c'était ce dimanche matin 20 mars, le mouvement de résistance yéménite Ansar Allah d'avoir mené 4 attaques contre l'Arabie Saoudite, ont rapporté des médias officiels saoudiens. L'agence de presse saoudienne a déclaré qu'une attaque aussi a visé une usine de dessalement d'eau dans la ville de Souraïr, l'installation pétrolière d'Aramco à Jizan dans le sud du pays. Une station de gaz à Khamis Mouchait et une centrale électrique à Zahran al-Janoub. Côté yéménite, le porte-parole de l'armée d'Ansar Allah, le général Yahya Sari, a fait état d'une opération d'envergure dans les profondeurs de l'Arabie Saoudite, ayant pour objectif de briser le blocus injuste saoudien contre le Yémen. Plusieurs cibles saoudiennes vitales et importantes ont été visées par des tirs balistiques et des missiles de Hélé et des attaques au drone dans les régions d'Abha, Khamis Mouchait, Jizan, Samta et Zahran al-Janoub, a-t-il souligné. Il a confirmé que les forces armées yéménites possèdent des coordonnées faisant partie d'une banque de cibles spéciales qui comprend un grand nombre de sites vitaux qui peuvent être ciblés à tout moment. Il a, dans ce contexte, averti l'ennemi criminel des conséquences de la poursuite de son siège brutal contre le Yémen qui se répercuteront sur ses installations et de ses projets économiques, s'engageant à mettre en œuvre des opérations militaires qualitatives pour briser le siège injustes qui comprendront des cibles sensibles imprévues par l'ennemi criminel. Le porte-parole des forces armées yéménites a réitéré que cette opération menée par les forces armées s'inscrivait dans le cadre de leur réponse légitime à la poursuite de l'agression et du siège injuste. La coalition d'agression saoudienne impose un blocus total contre le Yémen et mène depuis mars 2015 une guerre d'agression qui a causé la mort des dizaines de milliers de civils et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Le président de l'Assemblée nationale koweïtienne, Marzour al-Ghanim, a appelé à l'expulsion d'Israël de l'Union interparlementaire avant que la Russie n'en soit expulsée, en raison de son intervention en Ukraine. Les déclarations d'al-Ghanim sont intervenues lors de la réunion de coordination du groupe arabe qui s'est tenue le samedi 19 mars en Indonésie en marge de la 144e conférence de l'Union interparlementaire. S'adressant au président de cette union, Ouad al-Ghanim a déclaré que la présidence de l'Union interparlementaire est censé représenter tout le monde et pas seulement le bloc européen. Al-Ghanim a été surpris par les appels incitant à prendre des mesures contre la Russie pour son intervention en Ukraine depuis quelques semaines, notamment en l'expulsant de l'Union au moment où ils ignorent l'occupation israélienne de la Palestine qui remonte à plusieurs décennies. Le président de l'Assemblée nationale koweïtienne a demandé comment peuvent-ils exiger l'expulsion de la Russie à cause d'une intervention qui s'est produite depuis quelques jours ou semaines, alors qu'Israël, qui a envahi la Palestine depuis plus de 60 ans, n'y est toujours pas expulsé. Al-Ghanim a poursuivi « Nous rejetons absolument l'occupation car je viens d'un pays qui a subi les douleurs de l'occupation il y a plus de 30 ans, mais en même temps, nous devons confirmer notre rejet au principe du double standard », a-t-il souligné encore. L'Allemagne et le Qatar ont conclu un partenariat énergétique de long terme, mais a annoncé dimanche le porte-parole du ministère allemand de l'économie. Et selon l'IRNA, citant le Figaro, l'Allemagne est très dépendante de la Russie pour son approvisionnement en hydrocarbures, a conclu un accord énergétique de long terme avec le Qatar afin de diminuer sa dépendance envers le gaz russe, a annoncé un porte-parole du ministère allemand de l'économie. Cet accord a été conclu lors d'une visite à Doha du ministre allemand de l'économie Robert Habeck dans le cadre des démarches menées par Berlin pour diversifier l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne selon son ministère. L'étape suivante sera pour les entreprises concernées l'entrée dans les négociations contractuelles concrètes, a déclaré la porte-parole. Monsieur Habeck s'est entretenu à Doha avec l'émir du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamid Al Thani. Le Qatar est l'un des trois plus grands exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. Les pays européens comptent de plus en plus sur le gaz naturel liquéfié comme alternative au gaz russe. La question est particulièrement délicate pour l'Allemagne, dont la moitié des importations de gaz viennent de Russie. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.